Je voudrais commencer une petite série de six interventions sur la spiritualité. Quelle est la spiritualité biblique? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, normalement, mes prédications sont ce qu'on appelle normalement des prédications textuelles. Je suis un texte biblique. Là, ça va être un petit peu différent parce qu'on va chercher différents textes dans la Bible sur six thèmes différents qui me semblent des thèmes importants pour vivre notre relation avec Dieu aujourd'hui. Cette première partie, il y aura quand même une introduction. Donc, sur la spiritualité, et je vais arriver au premier aspect qui est l'émerveillement dans quelques minutes. Donc, l'évangile et la spiritualité. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Tourner dans l'autre sens, ce serait plus facile. Qu'est-ce que la spiritualité? La notion de spiritualité c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? En général, les gens disent j'aime pas la religion, mais la spiritualité, c'est quelque chose que l'on veut. Pour plein de raisons. En partie parce que je crois que les gens ne sont pas toujours satisfaits simplement d'une vie uniquement matérielle. On peut posséder beaucoup de biens, mais sans être vraiment heureux, satisfait, épanoui. Mais le mot spiritualité a un petit peu changé de sens au cours des siècles. Si c'est un peu trop philosophique, vous pouvez raccrocher dans 2 minutes. Donc d'abord, la spiritualité était toujours vu comme étant, dans la religion, la notion de la relation de l'homme avec Dieu. Donc c'était la spiritualité. Mais plus tard, un peu en philosophie, on a changé un peu le sens pour dire que la spiritualité, c'est la relation entre matière et esprit. Et dans certaines pratiques religieuses et philosophiques, le côté matériel était moins bien vu, le côté spirituel étant vu comme étant supérieur, et on a déjà parlé de cette hérésie, de cette erreur gnostique, où on disait que le corps était mauvais et l'esprit était bon. Donc, alors que bibliquement, ce n'est absolument pas le point de vue biblique, parce que nous vivons notre vie dans notre corps et on glorifie Dieu avec notre corps. Dans un troisième sens, la spiritualité, là je passe un peu chronologiquement, avait un peu plus le sens de la quête de sens. Quel est le sens de notre vie? Comment trouver l'espoir, la libération, la liberté? Il y a toutes les démarches qui s'y rattachent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le sens de développement de la personne, nouvel âge peut-être, où on cherche la quête du sens et on va dire ça va nous donner une approche de la spiritualité. Donc, on arrive à la quatrième étape, et qui n'a rien à voir avec la Bible du tout, c'est beaucoup plus récemment, même l'approche de la foi sans Dieu. Et donc, à nos dialogues Veritas, on a déjà eu un philosophe, André Comte-Sponville, qui se décrit comme un athée, qui se délecte des mystères, et qui veut vivre la spiritualité, tout en étant athée. Et comment il arrive à ça? Il arrive, et d'ailleurs on fait allusion dans Passerelle, la cinquième séance, quand la personne dit, si on vit pleinement l'ici et le maintenant, c'est l'épanouissement, donc c'est la spiritualité. Et on peut y arriver par la religion, par la psychologie, tout simplement par la philosophie, etc. Donc voilà tous les sens de spiritualité. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que dans un premier temps, je vais essayer de pointer quelques aspects de la spiritualité dans notre monde un peu postmoderne, des éléments qui ne me semblent pas satisfaisants et pourtant qui sont largement acceptés, dans notre société. D'abord, La spiritualité est vue comme la recherche du bien-être. Il faut être zen. Il faut avoir la paix intérieure. Je veux vivre, être, et en fait, le bien-être, c'est la recherche. Ce n'est pas Dieu qu'on cherche dans la spiritualité. Bien sûr, dans la spiritualité chrétienne, c'est Dieu. Mais c'est pour ça que Comte Sponville peut dire qu'il a une spiritualité sans Dieu, parce qu'en fait, la finalité, ce n'est pas de connaître Dieu, contrairement au chant qu'on vient de chanter. Te connaître, Jésus, c'est le bien-être, que je me sens bien, quel que soit le moyen par lequel j'y arrive. Et en réalité, à la différence, je dirais, des religions plus classiques, ce bien-être, on le veut tout de suite. C'est l'immédiateté. On ne veut pas attendre. Dans les religions classiques, il y avait toujours le sens de l'initiation, des disciplines spirituelles. Hein. Là, je parle uniquement. C'est plus large que le christianisme, que ce soit le christianisme ou l'islam ou le bouddhisme. On sait qu'il fallait du temps pour arriver à la finalité. Donc aujourd'hui, comme tout, on le veut tout de suite. Et si on essaie de se connecter à Internet ou sur son smartphone, il faut attendre 2 secondes. Waouh, c'est long, il y a un problème. Donc on veut les choses tout de suite, l'immédiateté. Alors, sur toute la panoplie d'offres, et y en a plein, comment savoir quelle est l'offre qui me convient? Parce que, par exemple, si vous allez dans une librairie ésotérique, donc gens de nouvel âge, il y a de tout. Entre la quête du Graal, ou l'évangile de Judas, ou le livre tibétain des morts, ou le bouddhisme, enfin tout ça. Et c'est complètement contradictoire. On peut pas, en fait, croire à tout cela en même temps. Alors comment je sais que j'arrive à la bonne spiritualité? Parce que je le sens. C'est validé par les émotions, pas du tout par la pensée. Si je le sens, alors c'est bon pour moi. Et encore, c'est une démarche très individualiste. On ne cherche pas la spiritualité normalement de façon très communautaire. Ou si on est ensemble, on peut être ensemble, mais quand même c'est individuel. Hein. On ne cherche pas vraiment la communauté, les relations. Bizarrement, parce que dans le monde postmoderne, on aime les relations, les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de la spiritualité, c'est rarement social, c'est rarement le groupe. C'est très très individualiste, ce qui correspond aussi bien à notre époque, où c'est mon choix, je choisis personnellement, et donc il faut être tolérant, il faut accepter les choix de tout le monde, donc voilà. Autre aspect, c'est que cette spiritualité de nos contemporains ne concerne que cette vie. On ne cherche pas vraiment la vie éternelle. Il y a une variante où on va parler de réincarnation, mais c'est la réincarnation en version occidentale, qui est comme une sorte de petit espoir qu'on ne va pas disparaître, qu'on sera réincarné, alors que dans les versions orientales, de la réincarnation, c'est plutôt une punition. Donc, si on ne s'est pas bien comporté comme homme, on risque d'être réincarné comme femme. Si on ne s'est pas bien comporté comme femme, on serait réincarné comme vache, ou je ne sais pas quoi. Bon, je ne dis pas que je suis d'accord, hein, mais bon, c'est la version orientale hein, que je dis. Hein, que, voilà. Mais c'est vu comme une punition et non pas comme une espérance. C'est que dans l'Occident qu'on le voit comme une espérance. Mais en général, la spiritualité postmoderne, c'est pour l'ici et le maintenant, donc je reviens à ce que je disais, et non pas pour une espérance éternelle. Et donc tout cela est ainsi mystique, j'ai déjà dit que c'est un peu validé par l'émotion, et c'est aussi syncrétiste. Donc syncrétiste, ça veut dire que, c'est un mot un peu technique, ça veut dire que l'on prend des éléments de différentes religions et qui ont fait sa propre foi, en quelque sorte. Hein. On parle du shopping spirituel. C'est comme si on a son petit caddie dans le supermarché des religions, des idées. Ah tiens, je vais prendre un petit peu de zen. Voilà. Ah ben, je vais prendre un petit peu de réincarnation. Ah ben, je vais prendre un petit peu du christianisme quand ça me plaît, enfin, etc. Et puis, bon, ça, j'ai vu dans Paris Match. Ah, il y avait une émission sur M6 qui disait ça. Donc, on prend un petit peu et on fait sa petite mélange personnelle. Et ça, tous les sociologues de la religion le savent, même ceux qui sont pratiquants ont un peu tendance à faire les choses à leur propre sauce. Donc voilà, c'est ça la spiritualité de nos contemporains. Et je dirais un peu attention, attention. Là, je fais une petite parenthèse, un petit provoque si on veut, mais il arrive que dans le monde chrétien, que l'on soit un peu tenté par cela, que l'on se dise, ce qui est important, c'est mon bien-être et non pas de connaître Dieu. On peut. Ou bien l'immédiateté. On oublie que apprendre à prier, c'est apprendre, par exemple. Donc, il y a une certaine discipline. Et même ne concerne que cette vie, il y a relativement peu de chants modernes qui parlent de la vie éternelle. Relativement peu. Dans J'aime l'Éternel, avec un stagiaire, on a examiné tous les chants, dont J'aime 1 et J'aime 2, parce que c'était un musicien. On a trouvé que 4 ou 5 sur 600 qui parlaient de la vie éternelle. Donc on peut être un peu influencé par la spiritualité autour de nous et aller dans leur sens, alors qu'il faut bien rester dans notre spiritualité biblique. Et aussi le fait que ce soit validé par le ressenti, plutôt que par la foi et l'objectivité de la parole de Dieu. Alors, quelle est la spiritualité centrée sur l'Évangile? Je propose deux aspects. D'abord, que la spiritualité biblique est centrée sur le salut. Donc là, c'est toute l'histoire biblique, depuis la création, l'entrée du péché dans le monde, la préparation de la venue du Sauveur dans le peuple d'Israël que Dieu a choisi pour être le berceau du Merci. Du Messie, la vie de Jésus, son enseignement, sa mort, sa résurrection, la prédication des apôtres. Bon, on va revenir à ça. Mais ce qui sous-tend notre spiritualité, c'est le besoin d'être sauvé. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que la spiritualité biblique est foncièrement relationnel. Donc Dieu se révèle comme un Dieu trinitaire. Donc il y a la relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et cette relation est fondamentale d'abord avec Dieu, te connaître Jésus, on vient de le chanter, j'ai dit. Jean 17, verset 3, qui dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, cette relation avec Dieu est fondamentale. Ensuite, il y a les relations avec les frères et sœurs. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et le Nouveau Testament est foncièrement un manuel comment connaître Dieu et comment vivre en bonne relation avec les frères et sœurs dans l'Église. Et l'unité chrétienne est foncièrement cela. Ce n'est pas d'abord l'œcuménisme, c'est d'abord vivre avec les gens que l'on connaît et qui sont parfois différents de nous, mais c'est-à-dire c'est une richesse. Hein. Quand j'étais justement à Toulouse, il y avait je crois pas que c'était un chrétien qui nous disait, mais dans la vie éternelle, on sera tous pareils, on sera exactement pareils, on ne va pas se reconnaître les uns les autres, mais pas du tout. On a notre personnalité, on est ce qu'on est, et on va rester comme cela. Et donc, si on va vivre l'éternité ensemble, bah, commençons donc à apprendre à le faire sur la terre. J'aime beaucoup cette ligne d'un poète qui dit que Nous sommes sur la terre pour accorder nos instruments pour le concert de l'éternité. Donc, ça, c'est une bonne façon de le dire. On apprend à nous aimer les uns les autres tels que nous sommes. Et puis aussi, dans la relation avec notre prochain. Parce que, quand même, le deuxième commandement, après aimer Dieu avec tout son être, tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute son intelligence, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est vraiment très important de dire que la foi chrétienne concerne le salut, et une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, de l'aimer, d'aimer les frères et d'aimer les autres. Et je dirais, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé un seul commandement du Nouveau Testament qui ne soit pas relationnel. Et même quand Paul, par exemple, aborde des sujets tels que est-ce qu'on peut manger de la viande sacrifiée aux idoles? Enfin, des questions comme cela. Tout son raisonnement, ce n'est pas uniquement est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais qu'est-ce que ça va changer dans nos relations avec les autres? Les forts, les faibles, etc. Donc, tout son raisonnement part du relationnel. Et c'est pour cela que les chrétiens, et même, je dirais, un pays comme la France, avec un passé chrétien en quelque sorte, a du mal à comprendre pourquoi, dans une autre religion, on va tellement insister pour la façon de s'habiller ou qu'il faut prier à un certain moment ou pendant une certaine période de l'année, parce que le christianisme n'a rien à, il n'y a rien à voir avec tout cela. On est dans le relationnel. Donc voilà une introduction sur notre spiritualité. Maintenant, on va passer au premier des six aspects de la spiritualité pour aujourd'hui. Donc, comment on va vivre cette spiritualité biblique dans le contexte contemporain. Et le premier point, la première chose que j'aime mettre en avant, c'est tout simplement l'émerveillement. C'est un mot que l'on utilise largement autour de nous maintenant, s'émerveiller. Quelqu'un a même prononcer le mot dans une prière ce matin, à un certain moment. Alors, avant de voir cela avec un exemple concret, je dirais deux remarques sur l'émerveillement. D'abord, il faut éviter une adoration étriquée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Trop restreint, comme s'il n'y a que certains sujets que l'on peut aborder lors d'un culte. Je me souviens une fois, j'étais en Belgique, et pendant le moment de louange avant le culte, la personne qui conduisait la louange a lu un texte dans Ézéchiel par rapport à celui qui devait être le guetteur, la sentinelle. Et donc il a lu un texte qui appelait en quelque sorte à être vigilant. Et il a dit, je m'excuse de parler d'un texte comme ça pendant la louange. Je dis, mais s'excuser de parler d'un texte biblique à l'église, c'était le comble quelque part. Il y a tellement de raisons. Tellement de choses bibliques, il faut essayer de sortir un petit peu des lieux communs. J'avais même, et cela a surpris certaines personnes, j'avais même dit qu'il y a un certain nombre de chants dans nos recueils que même un juif ou un musulman pouvait chanter. Bon, si c'est un psaume, pourquoi pas. Mais même un chant de louange, parce qu'on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de choses spécifiquement chrétiennes. Étriqué aussi, je ne sais pas si Hervé s'en souvient d'ailleurs. Une fois à Nancy, c'est un frère qui avait parlé pendant un culte, il voulait parler de la création. Et il nous a expliqué comment les baleines allaitent les petits. Et il y a un frère qui est venu me voir à la fin, il dit, mais je vois pas en quoi la façon d'allaiter d'une baleine concerne la louange. Et pourtant, il voulait dire, ben, Dieu a créé quelque chose de remarquable, ça fait partie de la création. Si on sait quelque chose comme ça, ce n'était qu'une petite partie de sa présidence, mais c'était pour dire, émerveillons-nous de la façon dont Dieu a créé le monde. Donc, il y avait de la place pour les baleines pendant le culte. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, donc, il y a le danger, alors qu'on peut s'émerveiller largement. Je me souviens l'hiver passé, en rentrant du métro chez nous, il avait plu, et j'ai pris énormément de plaisir à regarder la façon dont les bâtiments étaient reflétés dans les flaques d'eau. Et j'ai dit, oh, ça c'est extraordinaire, comme un gamin, si on veut. Mais pourquoi pas s'émerveiller? Et justement, les enfants s'émerveillent. C'est ce qui est bien. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles Jésus nous a dit de devenir comme des petits-enfants, de nous émerveiller sur des choses. Hein. Et la deuxième chose sur l'émerveillement, c'est qu'il ne faut pas confondre l'émerveillement et le merveilleux. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens font, et même dans notre monde chrétien évangélique, ils cherchent le merveilleux. Et ce n'est pas la même chose que l'émerveillement. Le merveilleux, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui fait que nous pouvons nous éloigner de la vie de tous les jours pour chercher Dieu dans le miraculeux, dans le ponctuel, dans une intervention extraordinaire. Et si Dieu peut le faire, ce n'est pas forcément tous les jours, alors que l'émerveillement commence avec quelque chose que l'on connaît, et Dieu nous permet d'avoir un regard neuf sur cette chose pour nous émerveiller toujours de cela. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a le culte, avec différents présidents de culte, qui nous permettent de voir les choses peut-être avec un angle nouveau pour nous émerveiller de nouveau devant ce que l'on connaît. Parce que tout le danger, c'est de banaliser ce que l'on sait. Je l'ai vu parfois avec des étudiants issus de familles chrétiennes. Oh, ça on connaît, ça on connaît. Mais tout d'un coup, on se met à côté d'un non-chrétien et on l'a dit, et il lui dit, oh. Et pour lui, c'est quelque chose de remarquable qu'on peut croire cela. Alors que finalement, il faut nous, c'est pour ça que je dis, il faut nous émerveiller tous les jours de ce que l'on sait. Alors, le texte que j'avais choisi ce matin pour cela, c'est Éphésiens 2, qu'on vient de voir. Mais on ne s'est pas concerté, hein, donc c'est pas grave, hein, c'est très bien. Donc, dans Éphésiens 2, Riri a lu la deuxième partie, je vais lire donc un peu la première partie. Nous pouvons d'abord nous émerveiller sur la justice du verdict de Dieu sur la condition humaine. Je lis les trois premiers versets. Vous étiez morts. Déjà, si ces mots-là ne vous font pas émerveiller, je ne sais pas ce qui peut vous faire émerveiller. Vous étiez mort. Voilà. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions morts, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, comment comprendre le monde? Comment comprendre la condition humaine? Comment comprendre ma propre vie? Comment comprendre mon comportement si on n'inclut pas le mot péché? On ne peut pas. On ne peut pas. Je pense encore à la condition humaine. Il y avait quelqu'un à Toulouse qui me disait, ah oui, c'est parce que au cours de notre évolution, nous avons dû apprendre à nous battre et puis en même temps à avoir un certain nombre de valeurs en commun pour qu'on puisse continuer à exister. Et donc, c'était normal que les êtres humains soient ce qu'ils sont. Le problème, c'est que dès qu'on dit normal, en un problème. Parce que souvent, quand les gens disent c'est pas normal, ils parlent de quelque chose que tout le monde fait. Donc c'est normal. Alors comment s'en sortir? Seulement si on dit c'est pas normal par rapport à quoi? Par rapport à la loi de Dieu. Donc à ce moment-là, on a quelque chose de solide. Et le sage peut construire sur ce solide de savoir qu'il y a un vrai bien, un vrai mal, et que les êtres humains se sont détournés de Dieu. Et qu'à cause de cela, nous sommes morts. Comme Dieu l'avait dit dans le jardin d'Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ce qui est intéressant, c'est le mot tous. Nous tous aussi, nous étions de ce nombre. Les chrétiens avant leur conversion, tout le monde est concerné par cela. Et nous vivions autrefois selon le train de ce monde, comme tout le monde, accomplissant les actions du prince de la puissance de l'air. Selon la traduction, j'ai vu dans la Tob, les puissances qui s'interposent entre ciel et terre, bon, c'est une façon de le dire, c'est entre les hommes et Dieu, donc avec Satan, le diable, fils de la rébellion, donc hommes rebelles à Dieu, et ont déclaré leur indépendance, le désir d'autonomie, et en faisant, et étant enfants de colère, donc des enfants qui méritent la colère de Dieu. Donc tout cela, c'est la condition humaine et je pense qu'il est important de s'y tenir. Ça veut dire quoi? C'est que quand les gens disent de quelqu'un qui vient de faire les 400 coups, mais il a un bon fond, on va dire non, il n'a pas un bon fond. Pour les chrétiens, nous ne sommes pas des gens qui ont un bon fond, mais il nous arrive de faire du mal. Nous avons un mauvais fond, mais dans la grâce de Dieu, il nous arrive parfois de faire le bien. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Nous n'avons pas un bon fond, nous sommes rebelles. Et même si nous sommes créés en image de Dieu ou à l'image de Dieu, nous sommes pécheurs. Et on peut s'émerveiller du fait que Dieu nous a fait connaître cela. On peut s'émerveiller encore plus du fait que nous sommes sauvés par la grâce, le salut par la grâce. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Et pour être sûr qu'on a bien compris, Paul répète au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, mais Dieu, pourquoi Dieu est-il intervenu? Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Par amour. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est Dieu Trinité, Trinitaire et amour. Et malgré notre erreur, notre péché, il a continué à nous aimer et a donné la porte de sortie en Jésus-Christ. Quelle est cette porte de sortie? C'est une série de réformes politiques? Pas du tout. Ce n'est pas la résurrection. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons une nouvelle vie. Et c'est en fait, nouvelle vie est auprès du Seigneur, mais nous sommes comme des exilés sur la terre, nous sommes citoyens des cieux, mais nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc notre passeport, ce n'est pas marqué République russe, comme certains, c'est marqué ciel. Voilà notre passeport. Donc, et on est étranger voyageur sur la terre, mais voilà, on veut voir notre passeport, on appartient au Seigneur, on est citoyen des cieux. Ça, c'est une expression biblique dans les Philippiens 3 et le verset 20. Voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas juste. On ne le mérite pas. Mais on peut nous émerveiller que Dieu nous a aimés à ce point. Quand, comme je dis souvent, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, mais à la vitesse de la lumière, on fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Pour arriver à la galaxie la plus proche, il faut 2 milliards d'années. Il y a 100 milliards de galaxies. Dieu est immense. Nous, on ne fait même pas 2 mètres de haut. On vit un maximum, bon, admettons 120 ans pour certains. Petits microbes, nous voilà au fond de notre lit, n'est-ce pas? Et ces petites créatures qui ont dit à Dieu, ah ben je vivrai sans toi. Hein? Comme les enfants qui pensent, surtout les adolescents, hein, qui pensent savoir mieux que leurs parents. Hein. Tous mes 4 enfants, vers l'âge de 13 ans, ont dit, moi je sais mieux que toi. Mais on l'a dit à Dieu. Et dans son amour, il nous a sauvés au prix de son Fils, donné en sacrifice. Donc, il y a de quoi nous émerveiller. Cette vie nouvelle en Christ, bon, ça c'est le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, une fois que nous sommes chrétiens, tout change. Parce que maintenant que nous sommes recréés, en quelque sorte, en Christ, nous avons été créés en Jésus-Christ. N'oubliez pas, d'après ce que j'ai compris par les spécialistes bibliques, que le mot créer, c'est toujours créer à partir de rien. Donc si nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens à partir de rien. Ce n'est pas en nous. Nous avons été créés en tant que chrétiens. Tout comme l'univers n'existait pas et Dieu dit que l'univers soit, nous n'étions pas chrétiens, que tel ou tel devienne chrétien. Donc, créé à partir de rien. Pour être son ouvrage, son poème, chef-d'œuvre. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Hein. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ça, il a bien dit déjà au verset 9, le verset précédent. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais une fois que nous sommes sauvés par la grâce, que nous ne méritons pas, là, c'est pour vivre pour lui, avec sa force. Dans nos petits groupes de discussion de passerelle mercredi soir, on l'a dit de la façon suivante, ça m'a frappé. Par la crucifixion de Jésus, nous sommes pardonnés. Par sa résurrection, nous avons la force pour vivre autrement. Je trouvais que c'était un bon résumé quelque part. Hein? On l'a dit dans notre groupe. Hein? Voilà. Et donc, quelle est cette nouvelle vie? Une partie de cela, c'est cette nouvelle humanité que nous formons en Jésus-Christ. Et c'est là la partie du texte que Riri a lu tout à l'heure. Donc, je ne vais pas revenir sur tout, mais en tant que nouvelle créature, et 2 Corinthiens 5, 17 le dit, hein, vous êtes une nouvelle créature, si, il dit ici également dans Galates 6, 15, il dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc en tant que nouvelle créature, on va être la nouvelle humanité. Donc, c'est choquant, mais c'est émerveillant en même temps. Verset 14. Christ est notre paix. Je vais commencer au verset 13. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Donc des juifs, des non-juifs. les Juifs et les Goïms. Il a renversé le mur de séparation, donc nous séparer les uns des autres. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Là, je lis dans le sommaire, il dit, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Donc ça veut dire que pour les Juifs, il a dit, en quelque sorte, et pour les païens, ce n'est pas en obéissant à la loi de Dieu que vous serez sauvés. Pierre, au Conseil de Jérusalem, dit que c'est un fardeau que ni nous, ni nos pères avons pu porter. Et au contraire, dans les Galates, il dit que la loi était comme un pédagogue, un enseignant, si on veut, pour nous conduire à Christ. Parce que quand on a compris qu'on n'arrivait pas, on vient à Christ. Tant qu'on pense qu'on peut s'en sortir par ses propres moyens, on ne vient pas à Christ. Et donc, quand on vient à Christ, on est rapprochés les uns les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 15, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Donc, l'homme dans le sens global, collectif, donc l'humanité, il a créé la nouvelle humanité en nous réconciliant les uns et les autres en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié ou la haine. Donc voilà, l'émerveillement, c'est quelque part, Dieu nous aide à comprendre ce monde. Je ne dis pas qu'on serait un meilleur premier ministre, ce n'est pas ça. Parce qu'il faut d'autres qualités, ou on est dans un monde pécheur. Mais au moins, on a la clé pour comprendre ce monde. Ensuite, le salut par la grâce, que nous ne méritons pas. Aucune autre religion ne propose cela. La vie nouvelle avec Dieu pour nous aider à vivre. Et puis la nouvelle humanité que nous formons, le chef-d'œuvre de Dieu. Comme je dis souvent, si vous voulez regarder le chef-d'œuvre de Dieu, ce n'est pas les Pyrénées, ce n'est pas les Alpes, ce n'est même pas la Bretagne. Il faut se regarder les uns les autres. Et là, c'est le chef-d'œuvre de Dieu parce que c'est son peuple pour l'éternité. Voilà. Donc, l'émerveillement, je pense que c'est important de demander à Dieu de voir toujours avec un regard neuf tout ce qui est autour de nous. Que ce soit des choses très simples, une fleur que l'on voit, un arbre, la forme des branches, de regarder dans les sciences la complexité du monde, en médecine, la complexité de l'être humain, en littérature, la complexité du comportement des gens, mais en même temps, combien c'est merveilleux que les êtres humains sont ce qu'ils sont. Et puis, de nous émerveiller, en nous regardant les autres pour dire, bon, cette personne est différente de moi, et le Seigneur l'a sauvé. Dans la différence. Nous sommes très différents les uns des autres. Donc il faut tout faire pour ne pas imposer notre façon de voir, mais essayer d'écouter les autres pour essayer de vivre ensemble en bonne intelligence parce que nous formons la nouvelle humanité. Voilà. Il reste 5 autres aspects de la spiritualité, mais on va commencer donc avec l'émerveillement. Et je vais prier et je propose que l'on rechante la dernière strophe. Donc, le technicien de venir. Et je vais prier. Seigneur, merci parce que par spiritualité, nous comprenons par ta grâce que nous avions besoin de salut et que nous avons besoin de toi, un immense besoin de toi pour notre vie. Et nous te demandons cette grâce de nous émerveiller tous les jours de plus en plus comme tes enfants, de ce monde dans lequel tu nous places, de ne pas devenir aigri, mais de te rendre grâce en toutes choses. Parce que c'est comme cela que nous pouvons aussi nous émerveiller. De nous émerveiller lors de nos cultes, de nous émerveiller quand nous sommes seuls, de nous émerveiller en famille. Parce que nous voulons, justement avec toi, ne pas passer dans l'amertume, dans l'aigreur, dans le cynisme, mais rester devant toi, des créatures sauvées par toi et qui trouvent tout leur plaisir, tout leur épanouissement en toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.